Bonjour, donc je m'appelle Karine Goblet, j'ai co-écrit un guide de l'Uchronie, hein, le guide de l'Uchronie paru aux éditions ActuSF, qui est en vente en bas à la librairie sur le stand d'ActuSF, n'hésitez pas. Donc j'ai co-écrit ce guide avec Bertrand Campès qui est quelque part dans le public, voilà, il est là. Donc si vous êtes ici pour une conférence, une interro-surprise, donc c'est vous qui allez poser les questions et c'est moi qui vais répondre. Mais je ne m'interdis pas d'aller chercher dans le public les réponses quand je ne les ai pas, tout simplement. Donc je vous souhaite la bienvenue. Et puis pour commencer, je vous propose, c'est moi qui vais vous poser une question, c'est est-ce que tout le monde sait ce qu'est l'Uchronie ? Moyen. Là-bas ? C'est bon, non ? Alors, juste pour donner l'info, l'Uchronie, ça consiste tout simplement à réécrire l'histoire en fonction d'un point de divergence. Donc, vous prenez dans l'histoire, notre histoire, notre grande histoire, notre belle histoire, un point. Vous dites, tiens, qu'est-ce qui se serait passé si, admettons, Adolf Hitler, qui a tenté d'entrer à l'école des Beaux-Arts de Vienne, il a raté le concours. Dans notre histoire, il est devenu celui qu'on connaît tous, hein, Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Vous lui faites réussir le concours d'entrée de l'école des Beaux-Arts de Vienne, il devient un peintre célèbre, pas Deuxième Guerre mondiale, etc., etc., etc. Donc ça, c'est l'Uchronie, c'est le temps qui n'existe pas, U-Chronos, sur le modèle de l'utopie, U-Topos, lieu qui n'existe pas. Donc vous avez l'Uchronie sur la grande histoire et puis vous avez l'Uchronie personnelle. Donc l'Uchronie, c'est en gros, si moi j'avais pris une décision différente, si j'avais pas écrit ce guide, par exemple, quelle aurait été ma vie ? Ça va ? Maintenant, c'est à vous de poser les questions et moi je vais passer le micro dans le public. Alors, qui veut poser sa première question ? C'est le principe de la classe inversée, hein ? Allez ! Là, oui, j'arrive. Alors ça, c'est moi, ça. Je me prends les pieds partout. Donc comme quoi, la technique et moi, on est vraiment, vraiment fâchés.
Donc la question est assez simple. Connaissez-vous un roman dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui s'appelle « La Saint-Barthélemy n'aura pas lieu » ?
Oui, on connaît la Saint-Barthélemy n'aura pas lieu. C'est un essai. Je me souviens plus du titre de l'auteur. C'est autour de la Saint-Barthélemy. Oui. On en parle d'ailleurs dans le guide. C'est sorti il y a 2 ou 3 ans.
Il y a 3 ans, c'est ça.
Ouais.
Je trouve justement très intéressant le concept de voir toute cette évolution que la religion pouvait prendre ou pas selon un simple événement.
J'ai pas du tout entendu.
Je trouvais ça très intéressant de voir la simple évolution qu'on pouvait avoir. Toute la religion et tout le gouvernement du moment par rapport simplement à la religion. Est-ce que vous auriez d'autres exemples justement d'évolution, on va dire, religieuse, par exemple, si la chrétienté n'existait pas ou autre chose à développer ?
Des uchronies sur la religion, il n'y en a pas tant que ça. On a des uchronies sur la période romaine, sur Mitra, que je ne dise pas de bêtises, Rachel Tanner. Donc Rachel, on va passer le micro à mon co-auteur là-bas. Si vous voulez bien faire passer le micro, hop, hop, hop. Et puis l'Uchronie de Renouvier.
Ah, il y a alors l'auteur, c'est Joël Schmitt.
Ouais, c'est ça.
L'auteur, c'est Joël Schmitt. Et le propos, pour ma part, c'est un essai qui était simplement là pour montrer l'apport fondamental des protestants, malgré le fait qu'ils aient, dans notre réalité, été massacrés pour leurs convictions religieuses, à l'histoire française. Moi, je reste persuadé que c'est ce qu'il voulait démontrer dans son essai. Parce que, bon, sur la fin, il termine, je crois, dans mes souvenirs, avec plus de guerre 14-18 ou autre. C'était un peu tiré par les cheveux. Il y a le glaive de Mitra de Rachel Tanner. J'y rajouterai les chroniques des années noires.
Oui, de Kim Stanley Robinson.
De Kim Stanley, bon, qui a été très mal traduit vu que c'est Years of Rice and Salt, les années du riz et du... où la peste noire en fait a quasi flingué la population européenne. Les trois quarts, et où en fait les deux grandes civilisations, ça va être la civilisation chinoise et la civilisation du Moyen-Orient, dans mes souvenirs.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Donc du coup, c'est plutôt le confucianisme et l'islam qui deviennent les religions fondamentales. Pour le reste, généralement, au niveau de la religion, c'est plus... L'Uchronie est là pour montrer souvent le pire. Donc on ne va pas vous dépeindre une religion remplie d'amour et de...
Et de bienveillance.
Et de petites fleurs.
Voilà.
Sinon, il y a le sketch de Coluche. Si, on avait, si Jésus-Christ était mort noyé, pensez à tous ces pauvres gosses qui auraient un bocal au-dessus de leur lit.
Dans la série bande dessinée de Péco,
oui.
Chez Delcourt, le jour d'après,
oui.
Il y a un album où le dernier chrétien, le dernier croyant au Christ, est assassiné. Et donc là, on débouche sur une uchronie où la religion chrétienne n'a jamais vu le jour.
D'accord.
Alors, vu que la série doit en être à plus de 30 albums, je ne sais plus lequel.
Ouais, je ne sais pas non plus. Merci. C'est jour J, hein. Ouais, c'est ça. Donc Jour J, c'est une série où tous les épisodes sont indépendants les uns des autres et chacun propose une uchronie. Il y a certains tomes qui sont certaines histoires qui sont sur deux tomes, mais généralement c'est indépendant et c'est une très bonne BD. Le premier, c'est si les Russes avaient marché sur la Lune, c'est des choses comme ça. Le Titanic aussi, il y en a une autour du Titanic qui est très 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 bien. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai pas l'intention de faire un cours magistral.
Bonjour.
Bonjour.
Savez-vous quelle a été la première uchronie qui a été écrite? Est-ce qu'elle a été influente? Est-ce qu'elle a lancé le style?
Alors, la première vraie uchronie, on va prendre celle qui pose le canon du genre, c'est Louis-Geoffroy Château. Ça date de 1800 et des poussières, donc je ne sais plus si c'est 32 ou 37. 32, hein. 37, voilà, 37. Et c'est une uchronie autour de Napoléon. Donc Napoléon Bonaparte qui devient maître du monde et qui instaure une première monarchie universelle. Il conquiert la terre entière. Et c'est lui qui pose les fondements du genre. Donc il pose le point de divergence, la réécriture de l'histoire et le clin d'œil. Parce qu'on a Napoléon qui passe au large du Nil. Et puis on ne sait pas pourquoi, mais il décide de faire sauter cette île. Il faut qu'il n'en reste rien. Voilà, donc on sait par rapport à notre réalité que c'est une île dans laquelle il a passé de sales moments. Mais lui, dans son continuum historique, il n'y a aucune raison qu'il fasse sauter cette île. Donc c'est Geoffroy Château qui a créé cette première uchronie. Le mot en lui-même vient de Renouvier, Charles Renouvier, qui est un philosophe, qui a écrit donc une œuvre qui s'appelle Uchronie, l'histoire revisitée, qu'on vous déconseille de lire parce que c'est... ça n'a pas bien vieilli du tout. Louis-Geoffroy Château, il reste lisible. C'est très daté, mais ça reste lisible. Donc ça, ce sont les vraies premières uchronies. Et elles sont françaises, taratata, cocorico. Voilà. Quand on retrouve des uchronies plus tard, on va les retrouver essentiellement dans la science-fiction, par le biais des États-Unis, des Américains, qui se réapproprient le procédé, parce que c'est un procédé qui permet de faire de la spéculation. Donc ça, ils adorent. Donc on va avoir Silverberg, on va avoir Philippe K. Dick qui vont prendre en route le procédé et qui vont le remettre au goût du jour. Et quand on est un peu curieux, quand on cherche un peu dans le passé, on va retrouver des uchronies ou des traces d'uchronies chez les philosophes grecs, parce que l'uchronie a toujours été liée à l'histoire. Et on va avoir des philosophes grecs qui se disent « Mais tiens, si cette bataille-là ne s'était pas passée comme ça, qu'aurait été le visage de la Grèce antique ?» Enfin, le visage de notre Grèce, hein, de notre monde hellénique. Et on va retrouver des petits morceaux d'uchronie comme ça, à droite à gauche, chez les philosophes et historiens. Et puis alors, très célèbre, hein, Blaise Pascal, une pensée « Et si le nez de Cléopâtre eût été plus court ?» Voilà, il aurait changé la face du monde.
Merci.
Là-bas.
Est-ce qu'il y a des uchronies françaises sur l'histoire française?
Sur l'histoire française?
Oui.
Oui, beaucoup. Il y a une période qui vous intéresse plus en particulier?
J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça par rapport justement aux Américains ou aux Anglais. On parle beaucoup de Napoléon, mais à d'autres périodes, alors, c'est plus rare.
On va parler de Napoléon et on va parler beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est les deux thématiques les plus grandes. On aura quelques uchronies sur la Première Guerre mondiale qui sont arrivées récemment parce que c'était y avait les commémorations, etc., les anniversaires. On va avoir beaucoup d'uchronies dans un peu steampunk à la française. Vous avez Johan Elio qui fait des uchronies, qui est un auteur français. Vous avez, alors, c'est pas très très connu, mais c'est Le Baron Noir d'Olivier Gechter, qui est uchronique et qui se passe pendant Napoléon III. Voilà, mais on est de l'ordre presque du super-héros, du Batman avant l'heure. Voilà. Mais on a Nicolas Le Breton qui fait une uchronie où le moteur à combustion n'est pas inventé. Il n'y a pas du tout de voiture. Et donc le monde dans lequel on vit en 1900 et des poussières, c'est un monde où les zeppelins dominent. Donc c'est un monde qui se passe dans les airs. Donc si on en a. Alors après, des uchronies pures historiques. On va être dans l'essai le plus souvent, dans l'essai ou l'essai stratégique ou l'essai économique parfois ou l'essai historique, mais et des romans on en a, mais pas forcément sur une réécriture pure de l'histoire. Voilà. Oui, alors ça se bat pour les questions.
Je voulais juste ajouter dans vos uchronies le bouquin de Roland Wagner,
Rêve de gloire.
Qui part du fait que l'attentat contre le général de Gaulle réussit et que la guerre d'Algérie se poursuit jusqu'en 1965.
Ouais. Ça, c'est vrai. Et on a une uchronie qui est assez particulière parce que non seulement on a une uchronie sur le plan historique, mais on a aussi une uchronie sur le plan musical. Hein, et on a une uchronie sociétale dans le sens où le LSD va pas avoir lieu aux États-Unis, ça va avoir lieu en Algérie, etc. Ça va vraiment être un monde reconfiguré à partir de la mort du général de Gaulle. Il y a une question encore ici.
Alors moi j'avais une question sur la part de recherche de l'uchronie pour mieux comprendre notre présent. Est-ce qu'il y a des domaines comme, je sais pas, j'imagine la sociologie ou la philosophie, on a utilisé l'uchronie pour mieux comprendre notre présent, les erreurs qu'on a faites, les choix qu'on n'a pas faits, etc.
Alors, il y a deux éléments de réponse par rapport à cette question. La première, c'est que l'uchronie, ça reste, du point de vue français, du point de vue universitaire, c'est pas un procédé qui est bien vu, c'est pas un procédé qui est considéré comme sérieux, c'est considéré comme du divertissement. Donc il va être utilisé, mais il va être vraiment utilisé à la marge par les universitaires et les historiens. Il va être utilisé beaucoup pour rejouer des batailles dans le cadre de la stratégie, donc dans l'enseignement de la stratégie et puis dans la réflexion de la stratégie. Et puis on se rend compte que quand on veut faire une uchronie solide, il faut qu'on soit très près du point de divergence, parce que plus on s'éloigne du point de divergence, plus les axes de divergence sont nombreux, et plus pour décrire une société crédible il faut couvrir des champs différents. C'est pour ça que c'est pas forcément l'outil le plus utilisé, mais ça commence à changer. Les historiens commencent à regarder ça d'un meilleur œil et de commencer à réfléchir à ce qui permet de faire. Ça reste un outil spéculatif, donc on n'est jamais dans la vérité, on pourra jamais être dans la vérité. Le seul avantage d'utiliser l'uchronie, c'est que ça permet de réfléchir aussi à la façon dont on écrit l'histoire, parce qu'on écrit l'histoire. Alors en fait. L'histoire, c'est censé être la vérité vraie, mais la vérité vraie, ça n'existe pas. On n'a pas toutes les données sur une période, par exemple. Donc, avoir de l'uchronie, ça permet aussi de se dire, tiens, comment nous, on voit une période historique, comment on la perçoit. Je vais prendre un exemple, c'est les Gaulois. Pendant longtemps, les Gaulois vivaient dans des huttes, au fond des bois, etc. Et puis, on fait des découvertes, on fait des fouilles, on trouve des choses et ça remet en cause l'histoire. Donc c'est aussi, tiens, l'uchronie, ça sert aussi à se dire, tiens, comment je fais moi l'histoire, comment je retranscris l'histoire. Ça permet de se poser cette question là aussi.
Merci.
Je vous en prie.
Oui, voilà, bonsoir. Une question, est-ce que par rapport, eu égard au nombre important de la production, peut-on considérer que les uchronies relèvent davantage de l'utopie ou plutôt de la dystopie? Autrement dit, est-ce que les œuvres littéraires, généralement, sont plus proches d'un univers plutôt meilleur que le nôtre, ou au contraire, plutôt cauchemardesque, eu égard au nôtre, par rapport à l'ensemble de la production?
J'ai pas l'impression, vu de ma fenêtre, c'est-à-dire vu de ce que j'ai pu lire, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de dystopie que d'utopie. J'ai pas cette impression-là. Maintenant, il n'y a jamais une utopie. N'est vraiment une utopie. Enfin, quand vous avez des utopies, souvent elles décrivent un monde totalement artificiel, et elles ne sont pas vraiment des utopies, parce que généralement le prix de l'utopie, c'est la perte du libre arbitre, souvent. Donc en fait, les vraies utopies sont aussi des dystopies.
On peut considérer que toutes les uchronies sont plutôt cauchemardesques eu égard à notre propre réalité, finalement.
Ouais, pas forcément. Ça dépend vraiment de l'intention de l'auteur. En fait, l'Uchronie en elle-même, c'est juste un procédé. C'est un procédé, essentiellement un procédé littéraire, mais surtout un procédé. Et souvent, c'est derrière l'auteur, il veut faire passer un message. Donc, il va faire passer le message qu'il a envie de faire passer. Soit un message où il va dire ça aurait été tellement mieux si, soit un message où c'est en disant regardez à ce à quoi on aurait pu échapper. Voilà. Donc, mais en elle-même, il n'y a pas plus de. Ça ne tend pas plus vers l'utopie que vers la dystopie. Alors, il y avait une question là-bas. Je vais faire dans l'ordre. Ça va, tout le monde m'entend bien ?
Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans Les Seigneurs de la Guerre de Gérard Klein, est-ce que vous l'avez lu ?
Les Seigneurs de la Guerre de ?
De Gérard Klein.
Non, je ne l'ai pas lu, malheureusement.
D'accord. Donc c'est un livre dans lequel l'auteur va transposer la guerre d'Algérie dans un univers qui sera... une guerre intemporelle et infinie qui fait que la guerre sera située que à cet endroit-là de la galaxie et qu'il n'y aura plus de guerre dans le monde à part à cet endroit-là. Et du coup, est-ce que ça pourrait être considéré... Enfin, le problème, c'est que du coup, vous ne l'avez pas lu, mais bon. Est-ce que ça pourrait être considéré comme une uchronie puisqu'il transpose un fait historique dans un univers de science-fiction et si c'est une uchronie, quelles sont les différentes formes d'uchronie possibles ? Quels sont les différents styles qui peuvent quand même être apparentés à de l'uchronie et qui ne peuvent pas être de la dystopie, de l'utopie ou d'autres genres de science-fiction ?
D'accord. Je vais vous demander de passer le micro à mon co-auteur parce que là, il a très envie de répondre et je vais le laisser répondre.
Non. Non, vous avez à peu près le même procédé qui est utilisé par Pierre Bordage dans Vang. Les jeux uchroniques où effectivement on s'amuse à refaire des batailles en utilisant des migrants vu que l'Europe s'est enfermée derrière un grand mur qu'on a fait payer aux Mexicains et où effectivement il y a une bataille qui a lieu entre les Romains et les Gaulois et les Gaulois l'emportent. Donc là oui, le procédé uchronique, mais dans ce cas là non, l'uchronie ça a vraiment lieu avec la notion de passé. Là c'est de la reconstruction, c'est même de la SF. Par contre, si vous voulez lire une uchronie de Gérard Klein, il a fait une très belle préface au roman steampunk La machine, la différence, qui a été fait par les deux grands noms du cyberpunk, Sterling et Gibson, et où il a fait une très très bonne préface au roman en imaginant justement deux uchronies. Et si les Japonais n'avaient pas attaqué à Pearl Harbor et l'autre était sur la Révolution française. Il imaginait justement, et si la royauté française ne s'était pas, entre guillemets, exilée à Versailles et était restée au sein de Paris, du coup, le rapport du pouvoir au peuple aurait très certainement changé. Mais dans votre cas, non, c'est de la SF. Par contre, vous pouvez répéter la dernière partie de votre question, je dois avouer que je ne l'ai pas compris.
Du coup, je me demandais si quels sont les différents types d'uchronie possible qui resterait dans le domaine de l'uchronie et qui ne divergerait pas vers d'autres styles de la science-fiction. C'est-à-dire que s'il y a des catégories de c'est-à-dire que l'uchronie pourrait être un style à part entière dans lequel qu'on pourrait traiter de façon vraiment différente selon la vision de l'auteur.
Là, je pense qu'elle sera d'accord avec moi, puis elle nous donnera son avis après. L'uchronie n'est pas un genre.
Voilà.
C'est une technique littéraire.
Ouais. En fait, l'uchronie, elle est transgenre et transmédia. C'est l'avantage. Alors, transmédia, pourquoi ? Parce qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel média, en BD, en littérature, en cinéma, en ce qu'on veut. Hein, voilà. Et transgenre, parce qu'en fait, c'est un procédé, il peut être utilisé pour un thriller. Fatherland de Richard Harris par exemple, c'est un thriller uchronique. Plus près de nous, Joe Walton et sa trilogie du subtil changement, c'est du roman anglais policier avec très codifié mais dans un monde uchronique, hein, et une uchronique qu'on voit en fait se mettre en place, hein. On suit l'évolution de la société anglaise après avoir signé une paix dans l'honneur avec l'Allemagne, voilà. Donc c'est transmédia et c'est transgenre, et on va retrouver donc des uchronies en science-fiction, on va retrouver des uchronies en thriller, on va retrouver des uchronies un peu partout, ce qui fait que c'est pas un genre à part. Nous, on l'a traité un peu comme un genre parce qu'à un moment donné, pour en parler, il faut bien en parler, il faut bien le circonscrire, mais c'est pas un genre en soi, c'est un procédé, ça reste de l'ordre du procédé. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut la retrouver un peu partout. On va la retrouver aussi dans des romans historiques, on va la retrouver dans des essais, on va la retrouver partout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de la traquer. Moi, j'adore ça, traquer.
Et maintenant, ce qui devient très très intéressant, c'est l'arrivée au niveau des séries. Là, par exemple, vous avez eu une adaptation du Maître du Haut-Château, mais qui diverge par rapport au roman. Où les Britanniques sont en train de préparer une mini-série sur la BBC, sur SSGB, où en fait, ils imaginent que l'Angleterre a été conquise par les nazis dès l'été 40. Et c'est un inspecteur de Scotland Yard qui a obligé de collaborer avec un SS envoyé par Himmler en personne pour sur un meurtre. Donc qu'est-ce qui fait qu'on envoie un SS sur la mort d'un scientifique manchot qui plus est dans un appartement sordide d'un Londres qui est patrouillé finalement par l'armée allemande et où il commence déjà à y avoir des dissensions entre la Wehrmacht et les SS. Ça, je pense que le prochain, the next big thing à ce niveau-là, ça sera justement et les séries télé et surtout le jeu vidéo.
Voilà. Donc ça répond totalement à ma question. Donc c'est merci.
Je vous en prie. Il y a une question là-bas, mademoiselle.
Bonjour. Bonjour. J'aurais deux questions. La première, par rapport aux uchronies, est-ce qu'il y en a qui se passent dans le futur? Puisque là, on parle donc d'événements passés qui ont un impact sur le temps présent à peu près. Mais est-ce qu'il y en a qui se projettent vraiment 100 ans, 200 ans, beaucoup plus loin? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez à nous citer une ou deux uchronies qui vous ont particulièrement marqué parce que c'était des petits détails ou des choses très originales?
D'accord. Alors, effectivement, des uchronies qui se projettent très loin dans le futur, ça existe. En fait, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est le point de divergence, il peut être très loin dans le passé, et le point de vue, en fait, le point de narration. Qui peut être effectivement très loin dans le futur. On peut avoir des uchronies où le point de divergence est dans l'Antiquité et de se retrouver avec un monde. Alors je vais prendre par exemple Lasser, détective des dieux. Lasser, on est sur l'Empire romain a perduré. On est dans les années 30-40, hein, qu'on a nous les années 30, comme on peut voir dans les polars. Et on a en plus de ça des dieux. Les dieux existent vraiment. Mais donc on a cette uchronie où le point de divergence est très loin dans le passé. Par contre, on est déjà beaucoup plus loin de ce point de divergence dans la narration. Et puis après, on a des auteurs de science-fiction qui vont mettre un point de divergence très loin dans le passé et qui vont projeter au 22e, 23e, 24e, 25e siècle. Voilà. Le seul souci, c'est que le point de divergence, ça devient juste un point de détail. Hein, parce que l'évolution de la société est telle qu'il faut que ça ait eu un gros bouleversement. Si je dis maintenant la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par l'Allemagne et je me place dans 300 ans, qu'est-ce que ça aura changé? Est-ce que vraiment dans 300 ans ce sera important que l'Allemagne ait gagné, mis à part le point de vue historique? Peut-être pas. Voilà, il faut quand même quelque chose qui ait de l'impact. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, des uchronies qui sont alors ou originales
ou sur des tout petits points de détail qui ont eu des gros changements.
Ou sur des tout petits points de détail. Le problème, c'est que le point de détail, il faut qu'il ait un impact. Voilà. Donc, si on prend au niveau de la grande histoire, des points de détail, c'est pas simple parce que ça s'efface très très vite en fait. Il y a deux courants en fait dans les uchronies. Il y a un courant qui dit l'histoire telle qu'elle existe, elle se reproduira peu importe les points de divergence. Par exemple, si je reprends Chronique des années noires de Kim Stanley Robinson, la trame temporelle, donc ça part du Moyen Âge où effectivement trois quarts de la population européenne est décédée par la peste noire, et malgré tout on va avoir la découverte de l'Amérique, on va avoir une première guerre mondiale, une seconde guerre mondiale, etc., etc. On va les avoir pas avec les mêmes acteurs, mais le cours de l'histoire est immuable, il tend à revenir vers ces lignes temporelles. Donc ça, c'est un premier courant d'histoire, on va dire marxiste. L'histoire, boum, elle est là. Et puis il y a un autre courant qui dit, non, si on change les choses, tout va changer, rien ne va se ressembler. Des points anecdotiques, j'en ai pas là en tête. Bertrand, des points anecdotiques qui auraient donné des uchronies Non, il faut des gros trucs. Il faut du mouse costaud, en fait. Ouais, il faut du mouse costaud.
Celle qu'on a lue, La Bille ne fait pas le moine. C'est l'élection d'un pape, en fait, qui est mis de côté par un autre, et du coup, le nouveau pape met une dictature religieuse. C'est un tout petit bouquin.
En jeunesse.
Oui, en jeunesse, ouais. Paru dans une petite collection. Ah si, j'en ai une très bonne, mais je ne peux pas vous révéler le point de détail, parce qu'en fait, c'est l'élément chronique principal du roman. C'est... Et... Attends, j'ai du mal...
C'est-à-dire que si vous le dites, vous ne pourrez plus le lire.
Voilà. Voilà. Ça... Mais, le... Mais il est très très original. Par contre, le gros souci, c'est que c'est sorti... J'arrive pas à me souvenir du nom de l'auteur et du nom de bouquin, parce qu'on a... On a mis un titre lambda, en fait. Mais ça part du principe, en fait, que la Première Guerre mondiale est vraiment la der des der. Et... Ouais. Le secret des tranchées. Mais je me souviens plus du nom de l'auteur.
J'ai une question aussi là-bas.
Juste pour compléter, je crois que j'ai... Il y a une série de nouvelles de Robert A. Heinlein,
ouais.
Qui a fait l'histoire du futur, le cycle, oui, de l'histoire du futur. Et donc, il fait tout un cycle de SF. Mais le tout départ de ça, ce sera la conquête de la Lune par l'homme. Et du coup, le seul point de divergence... Il est sur la date de commencement de la conquête de la Lune. C'est un tout petit point de divergence qui amène des événements énormes derrière.
D'accord. Je me souviens, il y a une uchronie. On va passer le micro à madame. Je vais terminer avec la demoiselle. Il y a une uchronie qui s'appelle « Aucun homme n'est une île » de Christophe Lambert, voilà. Christophe Lambert, donc pas l'acteur, hein, l'écrivain. Je suppose que tout le monde sait ici que Christophe Lambert, l'acteur, n'a pas écrit de science-fiction. Donc, Aucun homme n'est une île, qui imagine en fait sous Kennedy, il y a eu le débarquement dans la baie des Cochons à Cuba. On décale de 3 mois le débarquement de la baie des Cochons, et du coup, le débarquement réussit au lieu de rater. Et en parallèle, Ernest Hemingway ne se suicide pas. Et donc décide de, enfin il est pas très bon état quoi, il est quand même dépressif etc. Et alcoolique au dernier degré, mais il décide d'aller voir Fidel Castro qui est un ami, parce que justement son île est en train de se faire envahir. Et donc on a une double uchronie sur Hemingway et uchronie sur la date de débarquement. Donc là par exemple on est sur presque du point de détail et ça change le cours de l'histoire. Par contre je vous raconte pas la fin. Voilà.
Bah alors, sur les points de détail dans l'Uchronie, dans une série que peut-être tout le monde a vu, Charmed,
ouais,
la série des trois sorcières, à un moment, il y a une très belle parodie chronique où une des sorcières voit un homme avec un chien qui fait caca devant chez elle, et donc elle lui jette un sort. Et en fait, dans un futur parallèle, cet homme va déclencher une chasse de sorcières. Et à un moment, on voit une de ses sœurs qui doit être brûlée et qui remonte le temps pour lui dire « ne jette pas ce sort ». C'est vraiment l'aspect du point de détail de l'Uchronie.
D'accord.
Et on voit aussi ça dans la fiction, dans un épisode d'X-Men, The Day of Future Past, où exactement, il y a un point de détail qui fait si Mystique n'assassine pas quelqu'un...
Le président.
Non, c'est pas le président, c'est...
C'est Tyrion. On va dire Tyrion.
Tout le monde comprendra. Ça change la vie des mutants et on peut considérer que c'est une uchronie. Là, c'est vraiment un point de détail qui change cette histoire. Maintenant, sur les uchronies, je me demande, est-ce qu'il y en a plus actuellement en BD ou en roman ?
Alors, ce qui sort, bon, ça, je dirais c'est à peu près le même volume. C'est une trentaine de romans par an. C'est, en BD, c'est plus visible en BD. Bizarrement, parce qu'en BD, souvent, c'est des séries, donc ça tombe assez régulièrement. Tandis qu'en roman et en nouvelle, c'est plus aléatoire. Mais c'est à peu près le même volume. C'est par rapport à la production BD et littéraire de l'année, c'est peanuts. Hein. C'est 30 bouquins sur 800. Une rentrée littéraire, c'est 800 livres. Une deuxième rentrée littéraire, c'est 500. Donc on a deux rentrées littéraires par an. Donc c'est vraiment rien. En SF, en plus, il n'y a pas de phénomène de rentrée littéraire. Les livres sortent tous les mois, à peu près régulièrement, chez quasiment tous les éditeurs. Hein. La plupart des éditeurs, c'est 7 à 12 bouquins par an. Donc les uchronies, c'est vraiment un tout petit volume là-dessus. Ça, c'est rien du tout. C'est, nous, on en fait tout un foin parce qu'on est accro de ça. Mais à part ça, c'est pas la majorité, quoi. C'est vraiment pas la majorité de ce qui sort. Oui.
Tout à l'heure, vous avez dit que l'histoire pouvait remettre en doute notre façon de voir l'histoire via l'uchronie. Est-ce que, à une façon beaucoup plus personnelle, je pense que, par exemple, chaque fois que je vais me mettre en doute, je vais me dire, et si j'avais dit oui, par exemple, à cette personne-là, est-ce que déjà à ce niveau-là personnel, est-ce déjà une uchronie? Et sinon, est-ce que l'uchronie, c'est pas le meilleur moyen, s'il en est, pour de remise en doute?
Alors, est-ce que c'est de l'Uchronie ? Oui, donc c'est ce qu'on appelle l'Uchronie personnelle. Je vais vous donner un titre qui fonctionne très bien, qui est l'échange d'Alan Brenner. Donc dans l'échange, on a un personnage qui a fait des choix, qui a fait des choix de vie, mais des choix de vie radicaux. Voilà. Et qui regrette, parce qu'on est toujours sur le mode du regret quand on est sur l'histoire personnelle, hein, le plus souvent, qui regrette et qui aimerait quand même bien savoir ce que sa vie aurait pu être s'il avait fait d'autres choix. Et il se trouve qu'il va pouvoir rencontrer son double, qui a fait les choix exactement contraires et ceux qu'il ne regrette de ne pas avoir fait. Et ils vont échanger leur vie. Et il va pouvoir vivre la vie qu'il avait rêvé de vivre, tout comme son double va vivre aussi la vie qu'il avait rêvé de vivre. Et donc on a ça, et c'est effectivement de l'uchronie personnelle, c'est-à-dire appliqué à sa propre situation. Par contre, effectivement, ça ne va pas avoir un impact historique, un grand impact historique, mais par contre, à l'échelle de l'histoire de sa propre vie, ça a un énorme impact. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'était quoi ? J'ai oublié.
C'était juste savoir, du coup, la part de remise en doute qu'apporte l'Uchronie. Parce que, à ce niveau personnel, c'est surtout de la remise en doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix ?
Ouais.
Est-ce que, finalement, sur les grosses Uchronies qui vont au niveau de l'histoire, est-ce qu'on peut aussi... est-ce qu'on a fait le bon choix, tous ?
Oui, bah, c'est exactement le procédé, en fait. L'Uchronie, à titre personnel, elle sert de spéculation. Et elle sert aussi de manière de penser sa propre vie. Et elle peut servir aussi de psychothérapie éventuellement. Après, il faut faire attention quand même avec l'Uchronie. J'ai une question dans le public.
Non.
Comment ça, non ?
Ça peut être une maladie. Justement, vu qu'on parlait de psychothérapie, ça peut être une forme de dépression. Parce qu'au bout d'un moment, justement, il y a des gens qui en arrivent à sombrer dans la dépression. Bah oui, comme vous dites, face au choix, et si, puis la liste devient abyssale et vous remettez. Ça peut finir effectivement en dépression assez lourde dans des hôpitaux psychiatriques pour essayer de se rendre compte que c'est du surcontrôle. Vous essayez de vous dire, on vous met face à un choix et automatiquement, oui, non, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Trois quarts du temps, je dirais, c'est ce que l'Uchronie apprend. Il faut lâcher prise. Il faut simplement se dire qu'il y a une multitude de choix, mais ça n'implique pas le fait que l'un est meilleur que les autres.
Une question là-bas. Après, on peut parler des univers parallèles. À chaque fois qu'on fait un choix, on crée un univers parallèle, etc.
Voilà, justement, en parlant d'univers parallèle, etc., bon, en ce moment, comme on l'a dit, l'univers de l'Uchronie est très...
Alors, il faut que vous rapprochiez le micro. Parce
est
que...
très représenté dans tout ce qui est... série, etc. Et je veux revenir sur un jeu vidéo qui est français, Cocorico, qui s'appelle Life is Strange.
Mm-hmm. Là, vous faites le bonheur de mon co-auteur.
Bah, justement, on parlait de soi psychologique, je vais sans trop spoiler, à un moment donné, il y a un choix à faire. On a le choix de sauver le père d'une des protagonistes. Et si on sauve le père d'une des protagonistes, on met en danger de mort la protagoniste en question. Alors quand si on ne sauve pas, elle a bien envie. C'est justement, il y a ce choix moral qui est derrière et qui fait mal, quoi. Et ça, effectivement, ça peut créer un problème psychologique. Avec, oui, non, je fais le choix, je fais quoi ? Et au final, bon, la temporalité est toujours, revient toujours vers la temporalité du jeu en lui-même. Et ça crée, bon, avec la relativité et compagnie, tout ce qui est tempête, des zones, on s'en fout. Mais c'est vraiment intéressant, justement, de voir ce côté psychologique du choix. Et ce que je suis intéressé, c'est par rapport à le roman dont vous parliez tout à l'heure, de personnes qui échangent. Ça me fait penser à une série qui est en train de se faire en ce moment, qui est une série de super-héros. C'est celle de The Flash, où justement il va sauver sa mère dans le passé et il crée le Flashpoint, mais justement il est obligé de s'adapter en fait à cette nouvelle réalité qu'il a créée, et ses souvenirs de sa propre réalité s'effacent. Est-ce que ça en vient au même dans votre exemple?
Alors là, en fait, on s'éloigne de l'Uchronie, parce qu'en fait une Uchronie, ça ne peut pas exister. Ça, vous faites un voyage dans le temps, vous tuez votre père, du coup vous n'existez plus, du coup vous pouvez pas faire un voyage dans le temps en arrière. Donc c'est le paradoxe temporel. Donc ce qui est utilisé pour résoudre le paradoxe temporel, souvent c'est la création d'un univers parallèle, etc. Donc du coup on s'éloigne un peu de l'Uchronie. Ce qui est bien, c'est que dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement c'est utilisé comme procédé pour, notamment dans les séries, il y a toujours un épisode où on va s'attacher à la psychologie des personnages et leurs choix, et on va avoir un épisode uchronique dans pratiquement toutes les séries. On va avoir un épisode uchronique dans Code Quantum, on va avoir, voilà, parce que c'est la façon de réfléchir à ce qui fait ce qu'on est, parce que nos choix ne sont jamais que la résultante de notre personnalité. C'est plus là-dessus. Après, comment c'est traité visuellement, dans la structure, dans le... c'est au choix, vraiment au choix des scénaristes. Et là, pour le coup, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur chez le personnage. Et le dilemme moral, c'est un bon ressort, c'est un bon ressort de suspense. Parce qu'effectivement, quand vous êtes face à des dilemmes qui sont insolubles, on est sur du paradoxe, hein, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Et généralement, la personne fait quoi? Elle ne fait pas de choix. Elle laisse aller l'histoire, parce que de toute façon, c'est le moins pire. Ne pas faire de choix, c'est le moins pire des choix. Mais ne pas faire de choix, c'est déjà un choix.
Voilà. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il existe, je ne sais pas, des fausses uchronies, des ironies en quelque sorte, où on prend un vrai point de divergence et où en fait on se rend compte que ça ne change rien à plus ou moins court terme?
Ouais, alors on a aussi des auteurs qui ne vont pas jusqu'au bout de la démarche uchronique. Je vais prendre Le complot contre l'Amérique de Philip Roth. Il invente un point de divergence, en l'occurrence Lindbergh devient président des États-Unis à la place de Roosevelt, et Lindbergh est pro-Hitler, voilà. Mais à un moment donné, aux trois quarts du roman, pof, une petite pirouette pour que ça revienne sur ses rails. En fait, pour que l'histoire revienne dans les rails classiques, et donc Roosevelt reprend le pouvoir, etc., etc. Donc on a des choses comme ça, une uchronie qui n'est pas assumée jusqu'au bout. Oui, ça existe. Mais nous, on est en colère dans ces cas-là. Voilà, moi, j'arrive aux trois quarts du mouvement et je fais ah.
Mais même sans parler de pirouettes scénaristiques basiques, de manière plus construite et plus cohérente, est-ce que c'est courant?
Moi j'ai mon joker dans le public, c'est cool. Et vous en avez deux pour le prix d'un quand même. Hein. Ouais.
Vous avez Le bruit de la douche.
DSK oui, président. Le bruit de la douche.
Et où effectivement à la fin tu peux le balancer à la douche. Mais du coup le type est content parce que maintenant il fait des piges pour Le Figaro et autres. Vous avez tout un rayon qui s'appelle la politique fiction. C'est tout un tas d'ouvrages qui sortent généralement avant les élections, où on imagine une guerre imaginaire, une guerre entre l'Inde et la Chine. Là, il y en a eu un très bon qui est sorti il y a un an, mais dans une collection minuscule, c'est paru chez Komiku, où ils montraient justement l'escalade entre la Chine et le Japon à l'été 2014. Et à la fin, pour le coup, la fin était uchronique, vu qu'elle divergeait de notre réalité. Mais c'était pas le propos, c'était pour montrer justement est-ce que les deux étaient capables de revenir à la raison, et sinon qu'est-ce qui les empêcherait de se foutre littéralement sur la gueule pour savoir qui serait le maître de l'Asie du Sud-Est. Vous avez au niveau donc des politiques fiction, là par exemple il y a eu La Présidente, et je viens de découvrir qu'il y a eu une suite qui imagine du coup dans un futur proche l'élection de Marine Le Pen. Et quand c'est sorti, la radio, la presse, la télé, c'est magnifique, c'est de l'uchronie. Au moment où c'est sorti le truc, imagine l'élection de Marine Le Pen en 2017. Donc de fait, ça l'est pas. Là, un truc tout bête, je viens de postfacer un roman, Svastika Night, qui a été écrit par une citoyenne britannique, sous pseudo de Murray Constantine, parce que à l'époque le bouquin est sorti en 37, on voulait pas trop que ça sache que c'était une femme, qui est un plaidoyer féministe. En fait, elle l'imagine dans un futur super lointain, la victoire de l'Allemagne nazie. Du coup, c'est pas de l'uchronie, mais on m'a quand même demandé d'écrire une postface sur les uchronies nazies. Pourquoi? Parce que son roman, même si c'est de l'anticipation, après 45, si vous réfléchissez à une victoire de la manne nazie, ça, c'est de l'uchronie, passé 45. Auparavant, effectivement, c'est de l'anticipation. Donc l'étiquette est toujours modulable. Nous, on a une expression justement à ce niveau-là, on appelle ça les romans qui ressemblent à de l'uchronie, qui n'en sont pas, c'est du canal à drague. Voilà. Bon, généralement, ça finit à la poubelle, aux toilettes ou sous la douche.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai une question concernant les uchronies qui ne sont pas personnelles. Savoir si le point de divergence est parfois un peu plus léger, parce que souvent là, c'est des guerres qui changent, des points comme ça assez lourds, où du coup il convient de comparer le nouveau monde au monde qu'on connaît, après un jugement de valeur, savoir ce qui est mieux ou moins bien, un peu la question de la dystopie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des fois où le point de divergence est juste un monde différent et où finalement on le compare pas, ou finalement c'est un changement parce que du hasard, je sais pas, peut-être un événement naturel, et du coup on se retrouve avec un autre monde, d'autres règles d'histoire, mais qui sont pas forcément moins bien ou mieux. On compare pas des sociétés, c'est juste voilà, presque un amusement, presque de la science-fiction, vraiment genre
ouais. Généralement, les auteurs qui écrivent une uchronie ont un petit côté militant, ils ont un message à faire passer. Ce qui fait que souvent, ils vont dans leur point de divergence, ils vont mettre un point de divergence qui permet de changer la société comme ils voudraient qu'elle change là-dessus. Quand on veut juste créer un autre monde sans avoir besoin de faire la comparaison, on n'a pas besoin de l'uchronie. On n'a pas besoin de choisir un point de divergence, de l'asseoir dans l'histoire, etc., etc. On a juste besoin de dire « Ah, c'est un autre monde !» Voilà. Et j'y mets mes êtres humains. Et puis, ça peut être une planète qu'on découvre et on tombe dans le planète Opéra. Ça peut être « Non, bah, c'est vrai que ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis, mon monde, il est comme ça parce que j'ai envie qu'il soit comme ça. » Voilà. Donc, il n'y a pas... Moi, je trouve qu'il y a quand même une dimension militante ou une dimension... regret, c'est-à-dire que je regrette l'état de mon monde et donc je vais en construire un mieux, hein, ou pire, voilà, à partir d'un point de divergence. Mais en tout cas, il y a toujours cette dimension message et comparaison. Il y a toujours cette dimension réflexion sur l'histoire ou réflexion sur la société. Il y a toujours un bout de réflexion qui va un peu plus loin que juste je crée un monde parce que j'ai envie de créer un monde où il va y avoir des vaisseaux spatiaux, il va y avoir des super immeubles. Voilà, c'est pour ça qu'on dépasse un peu les frontières de l'ASF aussi. Alors que j'adore l'ASF, hein, je vous le dis. Ça répond à la question ?
Oui, donc en gros, il n'y a pas d'uchronie amusante, quoi. C'est toujours...
Non, moi, j'ai pas cette impression-là. Alors peut-être que c'est ma grille de lecture aussi. Mais j'en ai pas trouvé assez pour me dire, tiens, ça servait à rien de faire une uchronie, quoi. Voilà. Ou quand ça sert à rien de faire une uchronie, on peut très bien passer sans même voir le point de divergence. C'est-à-dire, si c'est tellement anecdotique, ça n'a pas d'importance, généralement, le lecteur passe au-dessus. Ou alors c'est vraiment l'auteur qui a décidé de voir si ses lecteurs sont intelligents et qui glisse ça comme ça à la référence, et puis basta, celui qui trouve c'est bien, celui qui trouve pas tant pis, quoi. Je crois qu'il y avait une autre question. Ça, là-bas, là.
J'ai une question sur le steampunk.
Oui.
Est-ce que le steampunk est bien une uchronie ? Et si oui, est-ce que c'est le seul univers ? Dans ce cas-là, l'uchronie a créé un univers pérenne.
Le steampunk, c'est le fils ou le cousin de l'uchronie, on va le dire comme ça, parce qu'à la base, le steampunk, ça part quand même d'un point de divergence. Si je reprends un des fondateurs du steampunk, c'est la machine à différence, William Stirling et Gibson. Enfin, c'est Stirling et Gibson, je ne sais plus les prénoms. On invente donc l'ordinateur avant l'âge. On avance la révolution industrielle. Tout tourne autour de la vapeur et tout fonctionne très bien comme ça. Effectivement, c'est un univers uchronique à la base. Et puis, le steampunk a pris son envol. Il a fait des petits. Et au final, il ne ressemble plus à l'uchronie. Hein, mais la base est uchronique. Alors après, il est devenu, pour le coup, un genre à part entière. Hein, enfin, un genre. Il y a encore un débat sur le steampunk. Est-ce que c'est un genre ? Est-ce que c'est une esthétique ? Etc. Parce qu'on va se retrouver avec du steampunk militaire. On va se retrouver avec du steampunk du thriller. Enfin, c'est pareil, c'est transgenre, le steampunk. Donc, c'est vraiment une étiquette et marquée par une esthétique très particulière, très forte. Donc, on est sur un cousin, un fils, un cousin qui aurait pris son envol, quoi, comme les enfants. Vous élevez vos enfants et puis à un moment donné, ils grandissent, ils prennent leurs propres décisions et puis voilà, quoi. Et ils font leur propre vie, leur propre monde.
Et est-ce qu'il y a d'autres mondes que le steampunk qui serait né d'une uchronie ?
On ne s'est pas posé la question, mais à vue de nez, non. Pas spécifiquement, non. Non. Il n'y a pas eu de grands courants comme ça, non. Et encore, c'est parfois, nous aussi, on rattache le steampunk à l'uchronie, parce que ça nous arrange, mais personne n'a jamais dit que le steampunk, c'était le bébé de l'uchronie, hein. Voilà, mais on trouve que à partir du moment où c'est arrivé effectivement après, que ça a repris l'idée du point de divergence et de la recréation, ça en fait partie. Ça fait partie du genre, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a encore un tout petit quart d'heure. Oui, mademoiselle.
J'avais juste une petite question par rapport à Philip K. Dick, parce que dans certains de ses romans, il écrit que, par exemple, je sais plus, je crois que c'est dans Ubik où le personnage principal dit « Oui, parce que mon père me disait que les dentistes, c'était comme ça. » Et l'intrigue se passe dans les années 60, le roman a été écrit dans les années 60, et de toute évidence, il y a eu une divergence, puisque ce personnage-là n'a pas connu les dentistes alors que nous, lecteurs, nous les connaissons. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des uchronies qui s'ignorent, ou je sais pas, un truc comme ça?
Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on pourrait dire... Alors en fait, c'est... après, il faut mesurer l'impact. C'est ça en fait. C'est-à-dire que si ça n'a pas d'impact, que ce soit une uchronie qui s'ignore ou que ce soit pas une uchronie, ça n'a pas réellement d'importance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'uchronie, elle a quand même pour fonction de changer quelque chose. Donc si le personnage n'a pas connu le dentiste et qu'il perd toutes ses dents et que, je sais pas, ça l'amène à créer une machine ou à créer le dentier un petit peu avant, peut-être, et que ça devient, je sais pas, une superstar de la médecine, ainsi de suite, oui, peut-être qu'effectivement, ça peut être intéressant, important. Si le fait qu'il n'ait pas connu le dentiste ne change rien à sa propre vie, ne change rien au cours de l'histoire, alors c'est pas une uchronie parce qu'il y a zéro impact. Alors, une uchronie, il y a un impact sur quelque chose. Sinon, c'est juste une anecdote et c'est bien sympathique, hein. C'est une anecdote, mais c'est sympa. Oui.
J'ai un trou de mémoire. L'auteur qui a écrit son mémoire de maîtrise, le Détroit de Bering, Emmanuel Carrère.
Emmanuel Carrère
a écrit, joue toujours énormément sur l'uchronie dans la plupart de ses romans. Vous en avez un, La Moustache, où le protagoniste se rase la moustache et quand il en fait la réflexion à sa femme, celle-ci le regarde éberlu en disant « t'as jamais eu de moustache ». Et en fait, le type devient complètement fou, sauf que par moment, il y a quelques éléments qui permettent de penser que le mec, en rasant sa moustache, a basculé dans un monde différent. Et c'est pareil, il a raconté à un moment la fameuse histoire du type qui s'était inventé toute une vie de médecin, alors qu'il avait échoué justement à l'examen, mais qu'il avait réussi par certains coups du sort à toucher un héritage, puis certains trucs, et qui a fait croire à sa femme, puis à ses enfants, que papa était médecin, et que papa, tous les matins, montait dans la voiture, partait, jusqu'au moment où le poids est devenu trop énorme, et qu'il a tué sa famille, parce que ceux-ci commençaient à se rendre compte que sa réalité à lui n'était pas la même que la leur. Vous avez aussi tout un tas de trucs sur les gens qui finalement ont une double vie. Ça apparaît aussi dans certaines séries policières où le type finalement a deux familles convenablement installées et aucune n'a pas. C'est pas forcément. On est à la lisière. On joue sur le principe du SI, mais c'est pas réellement de l'uchronie.
Et La Moustache a été adaptée en film avec Vincent Lindon.
Quelles sont les limites entre l'uchronie et le révisionnisme?
Et le
révisionnisme.
Ah, alors ça c'est simple, c'est pas du tout la même chose. Maintenant je vais expliquer pourquoi. L'uchronie, elle part du principe, elle prend les faits connus à l'époque. C'est-à-dire que maintenant j'écris une uchronie sur les Gaulois, j'en connais un peu plus que si j'écrivais une uchronie sur les Gaulois il y a 200 ans. Voilà. Donc je prends les faits, je prends les données et j'écris une fiction. C'est-à-dire que je dis textuellement... Qu'est-ce qui se serait passé si je changeais une donnée? Donc, et je suis dans la fiction et j'assume le fait que c'est une fiction. Et tous les auteurs du chronique vont vous dire ce n'est pas la réalité, c'est une fiction. Le révisionnisme, ça consiste à prendre les données, à se dire celle-là ne me plaît pas, celle-là ne m'arrange pas, je les dégage et voici la réalité, voici la vérité. Donc le révisionnisme, c'est je change pas l'histoire, c'est je dis que l'histoire s'est passée comme ça parce que ça m'arrange, je dis que les camps n'ont pas existé, je dis que les juifs n'ont pas été massacrés, je dis qu'on n'a pas tué les homosexuels, je dis que voilà, etc. etc., etc. C'est ça le révisionnisme. Le révisionnisme, ça consiste non pas à accepter les faits et les données qu'on a, mais à les rejeter pour écrire une histoire qu'on a décidé qui nous arrangeait le mieux. Donc ça, c'est vraiment deux phénomènes différents. Et tous les uchronistes ou les uchronautes, on les appellera comme on veut, font vraiment de la fiction et disent faire de la fiction, que ce soit en film, que ce soit en BD, que ce soit au ciné, que ce soit en musique. Voilà, on a des chansons uchroniques parodiques, mais on est bien sur de la fiction. Ça reste toujours bien ancré, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas notre réalité. Par contre, généralement, les auteurs d'uchronie connaissent, c'est-à-dire qu'ils ont bossé, leur documentation et ils connaissent ça sur le bout des doigts, quoi.
Justement, le problème n'est-il pas que pour bien apprécier l'Uchronie, il faut tout de même avoir un peu quelques bases historiques avant d'apprécier le livre en question, alors, quel qu'il soit d'ailleurs.
J'ai toujours tendance à dire que ça dépend du talent de l'auteur. Voilà. C'est-à-dire qu'une bonne histoire, ça reste une bonne histoire. C'est-à-dire qu'on a les connaissances historiques ou pas. Généralement, quand on a les connaissances historiques, ça donne un peu plus de sel. C'est-à-dire qu'on va on va mieux comprendre, on va mieux percuter, on va se dire « Ah ouais, là, c'est chouette ce qu'il a fait, là. Ah, ça, c'est intelligent, ça, c'est malin. » Voilà. Donc, c'est vrai que l'Uchronie, quand elle est bien faite, quand il y a une bonne histoire derrière, on va la suivre. Et qu'elle soit uchronique ou pas, on va l'apprendre. Bah, c'est un monde. Si c'est pas notre monde, on va le sentir, on va le voir. Et si on n'en a pas le tenant, les aboutissants et tout le sel, c'est pas très grave, ça va fonctionner quand même. Mais effectivement, une uchronie dans laquelle on a les connaissances historiques qui vont bien, ça va être beaucoup plus jouissif à la lecture. Maintenant, un auteur qui va faire une uchronie, qui va réserver ça à une élite, pour moi, c'est pas un bon auteur. Voilà, c'est à un moment donné, un livre, il faut bien commencer par quelque chose. C'est-à-dire, quand on commence en uchronie, il faut commencer par un bouquin qu'on comprend. Pour laquelle on comprend que c'est une uchronie. Et c'est pour ça que moi je conseille toujours Eric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre, parce que on a les deux fils temporels et on comprend ce qu'est une uchronie. Et après, ça donne le recul nécessaire quand on aborde d'autres titres pour lesquels on n'a pas forcément la culture historique, de se dire, tiens, là, il y a un truc, c'est pas mon histoire, il y a un truc qui va pas, et on va aller chercher justement qu'est-ce qui a bien pu changer. Là-dessus, il y a une uchronie qui me revient, c'est Le roi des Francs. De Michel Pagel. Voilà. Là, vous allez pouvoir la lire. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande connaissance historique de la période, mais quand vous avez une connaissance historique, c'est encore 100 fois meilleur. Voilà. Mais ça reste une bonne histoire. C'est-à-dire que ça reste un bon roman, un roman qu'on lit, dans lequel on s'immerge, qu'on suit et qu'on referme avec plaisir. Et quand on a des connaissances historiques sur la période, qui ne sont pas des connaissances extraordinaires à avoir non plus, on n'est pas obligé d'avoir fait une thèse hein, sur l'époque, eh ben, c'est encore meilleur. C'est juste encore meilleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Vous avez parlé de la moustache. Est-ce que vous avez d'autres conseils ou références de films qui utilisent bien ce procédé ?
Alors, moi, il y a un film pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration. C'est « Il était about time », « Il était temps », avec Rachel McAdams, qui est une comédie. Alors, une comédie. Une comédie un peu dramatique, une comédie un peu romantique, voilà, un film anglais, donc dans toute sa splendeur, qui joue en fait sur les voyages temporels. Et on a un personnage qui essaye simplement de corriger tout ce qui ne va pas dans sa vie, mais aussi dans la vie de ses proches, voilà, qui veut faire le bien de tout le monde, qui essaye de corriger ça par des sauts temporels, et donc de réécrire, de faire des mini-uchronies à chaque fois pour corriger ce qui ne va pas dans son monde. Quoi. Voilà. En film... c'est lequel avec Tom Cruise. Alors dans un autre registre, adapté d'un manga avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow. Voilà, Edge of Tomorrow, où là, on est sur de la boucle temporelle aussi, mais c'est plus film d'action, science-fiction. Après, ça dépend ce que vous aimez. Hein. Comme c'est toujours la même chose, c'est un procédé. Comme le voyage dans le temps, c'est un procédé qui peut être utilisé sur n'importe quel type de film et pas que de la science-fiction. On a des films à tonalité vraiment très différentes. Quoi. La moustache, c'est très particulier. C'est un film psychologique. Il y a Nicolas Kemp. Non. Un policier dans les années 80. Où il se retrouve face à son double. Avec Yvan Attal. Tu te souviens ? Oui, voilà. Et ça, c'est le trou de mémoire. Voilà, c'est un tout petit film. Il est à peine sorti. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à le regarder jusqu'au bout. Si j'ai regardé jusqu'au bout, c'est vraiment parce qu'il fallait que je le regarde jusqu'au bout. Quoi. C'était pour la cause. Voilà.
Haute fréquence qui vient d'être adaptée en série TV. Non, Fréquence interdite. Fréquence interdite, en fait, c'est un flic de nos jours qui, par le biais d'une aurore boréale, va rebrancher la vieille radio amateur que son père avait construite et va se rendre compte qu'il communique avec celui-ci dans le passé. Donc, vu que son père était pompier décédé dans un accident, bah, il va commencer à donner des indications et petit à petit, en fait, il va changer l'histoire. On va voir les changements de manière immédiate se répercuter dans sa vie de tous les jours. Retour vers le futur, qu'on peut citer automatiquement, et où c'est vraiment important de voir les trois, parce qu'à l'origine, ils ont sorti une belle intégrale avec pas mal de petits bonus, d'interviews et autres, et le producteur, qui est aussi le scénariste, avait avoué qu'à l'origine, il pensait faire qu'un film. Sinon, comme il le dit, bah, ils se sont retrouvés dans une merde sans nom par rapport à la fin originale du premier, qui était juste un clin d'œil. Le doc revenait, il partait vers le futur, parce qu'il fallait arranger des choses. C'était même pas une fin ouverte, hein. C'était un petit processus pour se marrer. Et du coup, quand ils se sont dit beaucoup plus tard, ah, bah, tiens, on va faire une suite, bah, ils ont été obligés de recommencer avec ça. Et comme il le dit lui-même, bah, on s'est retrouvé avec un personnage féminin, mais on savait pas du tout quoi faire. Ce qui explique. Tout le processus, ainsi de suite. Et si on y regarde bien, le 2 est intéressant, mais on a tout un tas de questions qui apparaissent justement dans le 2 qui sont totalement résolues à la fin du 3. Donc beaucoup de gens avaient hurlé en déclarant « mais le 3 est inintéressant parce que c'est le western, c'est ceci ». Mais si on y regarde bien, il y a des clins d'œil. Automatiquement, ils se prennent en photo par rapport à la mairie et autres. Il y a toujours les crises. Marty, dès qu'on le traite de femmelette ou autre, va s'énerver. Et petit à petit, on voit justement l'évolution du personnage qui accepte de ne plus s'énerver pour un rien. Et il y a les grandes questions existentielles, justement le choix, qu'est-ce que nous devons faire, vaut-il mieux ne rien faire, ou ainsi de suite.
Arlo, le dessin animé.
Oublions Pixar. Arlo.
Arlo, bah oui.
Oublions
non, mais
Arlo.
Si vous avez des enfants, une uchronie qui est tout à fait accessible, c'est Arlo. On a la première scène, de toute façon, vous avez les dinosaures, tranquillement, qu'on voit paître, vivre leur vie de dinosaures. On voit un météore passer et filer au loin. Donc le météore ne se crache pas d'extinction des dinosaures, arrivée de l'être humain. Mais après, bon, ça reste un dessin animé, ça reste un Pixar Disney, je sais plus. Enfin, de toute façon,
Pixar,
c'est pareil.
Mais le projet a eu énormément de mal à aboutir. Vous en avez énormément, dessins animés japonais. Vous avez Jinro, la Brigade des Loups, ouais. Qui a une uchronie très très sombre, par contre, pour le coup. La Traversée du Temps, de Mamoru Hosoda, qui est très très bien. C'est une fille qui découvre, en fait, qu'en courant et en sautant, plus elle court et plus elle saute loin, plus elle peut... voyager un peu loin dans le passé. Donc elle, au début, avait utilisé ça pour ah ben tiens, ma petite sœur s'est levée plus tôt que moi ce matin, a bouffé le flan que j'avais mis exprès dans le frigo, donc je vais sauter pour pouvoir bouffer le flan et puis ne pas arriver en retard en cours. Et dit comme ça, c'est ridicule, mais en fait il y a toute une réflexion extrêmement profonde sur les petits riens qu'ils font le quotidien et sur les choix qu'on est amené à faire.
Et est-ce qu'il y a des Parisiens dans la salle
aussi, qui est plutôt bon. Avril et le monde truqué.
Oui, Avril et le monde truqué, oui, dessin animé aussi de...
Très inspiré de Tardi.
Tardi, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des Parisiens dans la salle ? Bien. Ok, il y a une pièce de théâtre actuellement au théâtre de la Reine Blanche qui s'appelle Présent Parallèle de Jacques Attali, mise en scène par Monsieur L'Express, dont j'ai oublié le nom. C'est une uchronie, trois temps. Très 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 bien faite, juste trois acteurs sur scène, un décor minimaliste et jamais on ne se perd en route dans les différentes uchronies. C'est joué je crois jusqu'au 3 novembre, donc si vous avez l'occasion d'y aller, les Parisiens, franchement allez-y, parce que là pour le coup c'est bluffant, elle est bluffante le truc. Ah, Camille Redouble.
Est-ce que c'est une uchronie?
Non, mais je ne l'ai pas vu non plus, donc tu l'as vu toi ? Ça n'en est pas. Le monsieur, il dit que ça n'en est pas. Alors, une toute dernière question, mais vraiment la dernière, parce qu'il est 18h, pour conclure. Donc, pas une question philosophique où je dois faire une dissertation en 4 pages ? Non ? Pas de dernière question ? Non, bah pas de dernière question. Bon. Si, oui. Pardon ? Ah oui, Cloud Atlas, oui, bien sûr, qui est tiré d'un livre, mais qui est plus sur le voyage dans le temps que sur l'Uchronie, mais c'est vrai, oui. Cloud Atlas, très beau film. Ok. Oui, là, oui, mademoiselle ? On va lui rendre le micro de 2 petites secondes, elle va nous faire la conclusion.
Non, c'est juste...
est-ce qu'un voyage dans le temps, c'est forcément une uchronie ?
Non. Non, mais souvent un voyage dans le temps conduit le personnage à réécrire l'histoire et donc on a une uchronie limitée dans un espace-temps bien défini. Voilà. Donc c'est quand on reprend le procédé, mais c'est vraiment très très limité. Et ce qui fait que vous avez un jour sans fin, par exemple le jour de la marmotte, hein, il est hyper connu ce film. Vous avez une uchronie à la journée et le lendemain ça recommence. Voilà. Mais effectivement on n'est pas sur de l'uchronie, on s'éloigne. Nous on aime bien en discuter parce que c'est un peu le seul moyen au cinéma de faire passer de l'uchronie. Sans qu'il y ait besoin de connaissances historiques très, très importantes. Ah, bien sûr. Ok. Bon, bah, écoutez, je vous remercie pour vos questions. J'espère que j'ai donné des réponses. Et puis, merci à vous. Bonnes utopiales.